France Inter.
Aujourd'hui, la Terre primitive. Raconté par
Marion Garçon, chercheuse au CNRS, géochimiste au laboratoire Magma et Volcan de Clermont-Ferrand.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
La descente recommença cette fois par la nouvelle galerie. Hans marchait en avant. Selon son habitude, nous n'avions pas fait 100 pas que le professeur, promenant sa lampe le long des murailles, s'écriait « Voilà les terrains primitifs. Nous sommes dans la bonne voie. Marchons, marchons. » Lorsque la Terre se refroidit peu à peu au premier jour du monde, la diminution de son volume produisit dans l'écorce des dislocations, des ruptures, des retraits, des fendilles. Le couloir actuel était une fissure de ce genre par laquelle s'épanchait autrefois le granit éruptif. Ces mille détours formaient un inextricable labyrinthe à travers le sol primordial. À mesure que nous descendions, la succession des couches composant le terrain primitif apparaissait avec plus de netteté. La science géologique considère ce terrain comme la base de l'écorce minérale et elle a reconnu qu'il se compose de trois couches différentes reposant sur cette roche inébranlable qu'on appelle le granit. Or, jamais minéralogiste ne s'était rencontré dans des circonstances aussi merveilleuses pour étudier la nature sur place. Ce que la sonde, machine inintelligente et brutale, ne pouvait rapporter à la surface du globe de sa texture interne, nous allions l'étudier de nos yeux, le toucher de nos mains. À travers l'étage, des schistes colorés de belles nuances vertes serpentaient des filons métalliques de cuivre, de manganèse, avec quelques traces de platine et d'or. Je songeais à ces richesses enfouies dans les entrailles du globe et dont l'avidité humaine n'aura jamais la jouissance. Ces trésors, les bouleversements des premiers jours, les ont enterrés à de telles profondeurs que ni la pioche ni le pic ne sauront les arracher à leur tombeau. La lumière des appareils, répercutée par les petites facettes de la masse rocheuse, croisait ses jets de feu sous tous les angles et je n'imaginais voyager à travers un diamant creux dans lequel les rayons se brisaient en mille éblouissements. Vers 6h du soir, cette fête de la lumière vint à diminuer sensiblement, presque à cesser. Les parois prirent une teinte cristallisée mais sombre. Le mica se mélangea plus intimement au quartz pour former la roche par excellence, la pierre dure entre toutes, celle qui supporte, sans en être écrasée, les quatre étages de terrain du globe. Nous étions murés dans l'immense prison de granit. Voyage au centre de la Terre, Jules Verne, 1864. Bonjour Marion Garçon.
Bonjour.
Est-ce que Jules Verne et son voyage au centre de la Terre ont nourri votre vocation de géochimiste ?
Alors non, en fait, pas vraiment, parce que j'ai découvert ces textes bien plus tard, quand j'étais déjà à l'université.
Oui. Là, ce que vous avez entendu, est-ce que c'est fidèle à la science, ou vraiment, depuis le 19e, on a complètement revisité ces connaissances ?
On a fait beaucoup de progrès, oui. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément ce qu'on pense aujourd'hui.
Oui. L'Islande, qui est au cœur justement de ce roman, est-ce que c'est une terre intéressante à étudier quand on s'intéresse à la Terre primitive ?
Alors, pour la Terre primitive, pas tellement, parce qu'en fait, c'est assez jeune, donc on va plutôt vers d'autres terrains au Canada, en Australie, en Afrique du Sud, par exemple.
À quoi s'intéresse votre discipline, alors la géochimie exactement ?
Alors la géochimie, c'est l'étude de la composition chimique des roches. Et moi, j'étudie leur composition chimique pour essayer de comprendre comment elles se sont formées, dans quelles conditions elles se sont formées. Et ça, ça nous apprend des choses sur la formation des continents, la formation des océans, l'apparition de l'oxygène sur Terre.
Et donc ces roches, elles se sont formées quand alors ?
Ah bah, elles se sont formées tout au long de l'histoire de la Terre.
Et dès ses débuts ?
Dès ses débuts. Alors on a évidemment un grand débat sur l'âge de la plus vieille roche qui existe, mais on va dire à partir de 4,3 milliards d'années, sachant que la Terre s'est formée il y a 4,56 milliards d'années, donc c'est très très proche du début de l'histoire de la Terre.
Donc votre travail, c'est quoi ? C'est d'analyser la composition chimique de ces roches ?
Voilà. Donc on va aller chercher sur le terrain. Ensuite, on les étudie, on étudie leur minéralogie, leur pétrographie. Moi, ce que je fais principalement, c'est que je les broie, je les réduis en poudre, je les attaque avec des acides... Je les fais chauffer pour les dissoudre.
Eh bien, dites donc, ok, rien ne vous résiste.
Non, là, c'est sûr. Et ensuite, on analyse leur composition chimique et leur composition isotopique avec des spectromètres de masse, principalement.
Ouais. Et donc ça, pourquoi exactement ? Pour essayer de répondre à quelle question ? C'est quoi le cœur de vos recherches ?
Comment est-ce qu'elles se sont formées ? Donc, ce sont des roches, soit qui appartiennent à la croûte continentale ou à la croûte océanique, où il s'agit de sédiments qui se sont déposés dans le fond des anciens océans. Mmh. Et donc, leur composition chimique, vraiment, elle nous renseigne sur les conditions qui existaient à l'époque de leur formation.
Donc,
on cherche aussi à les dater.
C'est ça, oui.
Donc, il faut pouvoir les dater et puis ensuite analyser leur chimie.
Et donc, vous avez des échantillons très anciens ?
Oui, alors je suis partie il y a 2 semaines, enfin je reviens d'un terrain dans le nord du Canada, en territoire inuit, où là on a essayé d'aller chercher les roches qu'on pense être les plus vieilles sur Terre.
Donc 4,3 milliards
d'années ? 4,3 milliards d'années, alors cet âge est débattu, il y a une partie de la communauté scientifique qui pense que c'est 4,3 et une autre partie plutôt 3,8. Donc voilà, donc là on va essayer de mettre tout le monde d'accord, même si ça n'a pas été évident.
Ça c'est l'objet de votre travail justement,
voilà.
D'essayer
là,
de bien dater les choses,
oui. On est retourné sur place dans ce terrain qui n'est pas facile d'accès et on a rééchantillonné des roches qui sont des sédiments, des formations de fer rubané qui se déposaient dans le fond des premiers océans.
Ouais.
Et donc ce qu'on espère pouvoir faire, c'est les redater. Enfin, les dater, puisqu'ils n'ont jamais été datés, et essayer de montrer qu'elles ont bien 4,3 milliards d'années, comme les roches environnantes.
Ouais. C'est extrêmement émouvant, ça, quand même, d'avoir entre les mains les roches les plus anciennes de notre planète, non ?
Oui, surtout qu'elles sont très jolies.
Ouais, elles ressemblent à quoi, alors ? D'ailleurs, l'environnement ressemble à quoi au Canada ?
Bon, l'environnement, c'est des espaces, on appelle ça la toundra, c'est très aride, donc c'est plutôt des affleurements de roches, des dalles très plates, c'est très marécageux, il n'y a aucun arbre, voilà, donc en fait c'est très pelé comme paysage. On a eu la chance d'avoir beaucoup de soleil et de vent, donc c'était très bien, on a pu bien échantillonner et prendre les roches qui nous semblaient intéressantes pour pouvoir redater.
Et on a le droit de se servir comme on veut, en fait, par rapport à ce qui pourrait faire figure de trésor mondial, quasiment.
Oui, donc en fait, c'est un territoire inuit, donc on demande un permis d'accéder et un permis d'échantillonner. Voilà.
Ouais.
Et donc là, depuis quelques temps, la communauté inuit est très réticente à ce que les scientifiques reviennent échantillonner, parce qu'il y a eu des abus par les équipes scientifiques précédentes. Enfin, c'est ce qu'ils considèrent, parce que c'est leur terre à eux.
Mmh.
Et donc du coup, là, on a eu un peu une petite exception, parce que normalement, ils avaient fermé à l'échantillonnage depuis janvier 2025. Mmh. Et donc là, on a eu le droit de revenir, a priori pour la dernière fois, échantillonner ce qui nous semblait important. Et donc, c'est un peu la mission de la dernière chance.
Ouais. Et quand vous passez la douane pour rentrer en France avec votre sac de roche
Alors, je ne les ai pas pris avec moi. Ils sont avec mon collègue à l'Université d'Ottawa. Et on les renvoie par service postaux un peu plus tard.
Ouais. En quoi ces recherches-là sur la Terre primitive permettent de comprendre la dynamique actuelle de la planète ?
Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les grands événements qui se sont passés au début de l'histoire de la Terre, la première moitié de l'histoire de la Terre, ça a vraiment façonné la Terre qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire, sans ces événements, il n'y aurait pas de continent, il n'y aurait probablement pas d'océan, on n'aurait pas d'oxygène sur Terre. Donc en fait, c'est vraiment des éléments clés pour comprendre aujourd'hui pourquoi notre Terre, elle a cette... ces continents, la vie, l'oxygène. Donc en fait, on étudie vraiment les prémices de ces grands phénomènes.
Ouais. Et ces travaux-là, est-ce qu'ils croisent aussi la question de l'émergence de la vie ? C'est-à-dire qu'en travaillant sur des roches, est-ce que aussi, in fine, on arrive à comprendre comment la vie a émergé sur notre planète ?
Oui, bien sûr. Donc les roches qu'on a échantillonnées là au Canada, donc ont potentiellement 4,3 milliards d'années, ces roches-là, il y a quelques années, il y a une étude qui a été publiée où ils ont découvert des micro-fossiles à l'intérieur, donc des filaments ou des tubes qui sont riches en fer et qui sont interprétés comme étant des plus anciennes formes de vie existantes. Donc là, ça voudrait dire que déjà, à 4,3 milliards d'années, il y avait des bactéries, donc là ici, qui oxydaient le fer, qui existaient dans le fond des océans. Donc c'est vraiment les premières formes de vie qui auraient pu exister.
Et est-ce qu'on peut également établir des parallèles entre vos travaux donc, sur la planète Terre et l'exploration d'autres planètes, voire exoplanètes hein ?
Alors ça, c'est un grand saut, puisqu'on n'a pas encore trouvé de vie sur d'autres planètes. On n'a pas encore... La spécificité aussi de notre planète, c'est quand même les océans. On sait que la vie s'est développée...
L'eau
liquide s'est développée dans les océans, probablement très proche des systèmes hydrothermaux sous-marins, parce que c'est un environnement qui présente toutes les conditions idéales pour que la vie se développe. Donc la chaleur et puis les nutriments qui sont apportés par le volcanisme. Donc voilà, Oui, en comprenant comment est-ce que la vie est arrivée sur Terre, ça peut nous aider à savoir si elle aurait pu avoir existé sur d'autres planètes ou si elle existerait peut-être sur d'autres planètes, si ces conditions sont de nouveau rencontrées dans d'autres environnements.
Parce que les scénarios étaient assez similaires. Par exemple, sur Mars comme sur la Terre, dans les premiers temps, on avait des modes de formation de ces deux planètes qui ressemblaient beaucoup, mais évidemment, les destins n'ont pas du tout été les mêmes.
Alors on sait quand même, a priori, qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Il n'y en a plus, mais a priori, il y en a eu. Maintenant, est-ce que ça, c'est suffisant pour avoir permis de développer la vie, ça, pour l'instant, on n'a pas trouvé.
Marion Garçon, en tout cas, les échelles de temps que vous utilisez dans vos recherches sont vertigineuses, puisqu'on parle en milliards d'années. Hein. Mm-hmm. Comment on arrive à se le représenter, ça ? Vous avez un moyen pour nous aider à ce que notre cerveau puisse se placer un peu
Oui, alors, ce que j'utilise souvent comme analogie, c'est si on ramène l'histoire de la Terre, donc 4,56 milliards d'années, à une échelle de 24 heures, donc une journée, et donc on dit que le début de l'histoire de la Terre, c'est minuit. Voilà, en fait, on se rend compte que, par exemple, l'espèce humaine, Homo sapiens, est apparu il y a 300 000 ans, donc ça voudrait dire qu'il est apparu, sur une échelle de 24 heures, à 23 heures, 59 et 55 secondes.
Oh là là, mais
donc, en fait, notre existence, l'existence de l'espèce humaine représente vraiment quelques secondes de l'histoire de notre planète. Rien, voilà, on peut dire.
Nous sommes peu
de choses. Et par exemple, les dinosaures qu'on pense être très lointains, qui ont vécu, en gros, il y a 200 et 65 millions d'années, voilà, ça serait à peu près entre 22h45 et 23h40. Donc de nouveau, on voit que c'est vraiment... ça nous paraît très loin, mais en fait, à l'échelle de l'histoire de notre planète, c'est vraiment très récent.
Que sait-on donc aujourd'hui de la formation initiale de la Terre ? Pour illustrer cette question, voici l'extrait d'un documentaire de la BBC.
On a appelé cette période l'AD1, en référence à Hadès, le dieu des enfers dans la mythologie grecque, parce qu'on pense que la Terre était un véritable enfer.
Notre monde actuel n'a plus grand-chose à voir avec cet enfer originel. Mais certains paysages évoquent encore ce lointain passé.
Marion Garçon, donc c'était vraiment l'enfer sur Terre, c'est le cas de le dire, au tout début de la Terre ?
Au tout début, probablement, oui. Ça devait ressembler à ce qu'on appelle un océan magmatique. Donc il y a eu peut-être plusieurs périodes avec cet océan magmatique. Donc,
qui entourait l'ensemble de la Terre.
Voilà.
C'était une boule de lave et
de magma,
c'est ça ?
On peut dire ça comme ça, oui.
Ouais.
Voilà, donc ça au début, ça s'est peut-être passé plusieurs fois, on ne sait pas trop. En tout cas, le dernier océan de magma sur Terre, c'est probablement celui qui a eu lieu après la collision avec la protoplanète Théia, qui a formé le système Terre-Lune aujourd'hui. Donc cet épisode, oui, c'est des épisodes très énergétiques qui ont eu lieu probablement jusqu'à 4, juste avant les premières roches, donc 4,35 milliards d'années.
Oui, donc c'est vraiment un laps de temps assez court, là, pour le coup, entre l'apparition des premières roches et vraiment le tout début de la formation de la Terre.
Oui, la formation de la Terre, donc c'est il y a 4,56 milliards d'années. Ensuite, très rapidement, elle se différencie, donc on forme un noyau, un manteau, et puis peut-être une protocroûte. Et puis, il y a cet impact géant avec une protoplanète qu'on appelle Théia, qui était probablement à peu près de la taille de Mars, qui vient percuter... la Terre, qui vaporise l'ensemble des roches, et qui ces roches recondensent pour former à la fois la Terre et la Lune, et ça produit un océan de magma sur la Terre et sur la Lune.
Ouais. Ça, c'est un événement majeur.
Oui.
Mais quel fruit du hasard total aussi.
Oui, c'est le fruit du hasard. C'est lorsque les planètes se forment, en fait, elles se forment par des roches, des blocs de roches qui s'amalgament, qui forment des corps de plus en plus gros, jusqu'à former des protoplanètes qui tournent autour du Soleil, et parfois elles rentrent en collision, c'est ce qui s'est passé.
Et la collision, c'était vraiment de la bonne grosse collision ?
A priori, les modèles numériques nous disent que oui, on n'était pas là pour le voir, mais les simulations numériques qui sont faites, oui, c'était une collision avec une énergie énorme, donc qui a vraiment vaporisé l'ensemble des roches à la surface de la Terre, et qui a permis d'homogénéiser les compositions des deux corps qui se sont percutés.
Et la Lune a été formée en combien de temps alors suite à cette collision ? C'était un processus très rapide.
C'est très très rapide. Même le refroidissement de l'océan magmatique, on est en quelques millions d'années. Donc
ça, c'est rapide pour vous, à votre échelle en tout cas.
À l'échelle des temps géologiques. Je reviens sur l'échelle de 24 heures, ça correspond à quelques minutes même.
Ouais. Quelles sont les preuves qu'on a de ce scénario justement là, de cette collision avec Théia sur la Terre et de la formation de la Lune, c'est quoi les preuves en fait de ce qui s'est passé ?
Les preuves, on n'en a pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est que la composition de la Terre et de la Lune sont très similaires. Et donc, l'une des hypothèses qui a été avancé et qui est validé ou au moins viable avec des modèles numériques, c'est cet impacteur qui aurait percuté la Terre et qui aurait mélangé en fait la composition des deux corps pour qu'à la fin on se retrouve avec des compositions qui sont très similaires sur la Lune et sur la Terre.
On va voir justement dans un instant avec vous, Marion Garçon, comment les océans sont apparus ainsi que les premiers continents, et vous répondrez également aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur la page de la Terre au Carré.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré.
Les océans, cette eau qui nous entoure, d'où provient-elle? En 2020, des chercheurs du CNRS ont apporté des éléments de réponse. Laurette Piani et Yves Marocchi, cosmochimistes, ont publié un article qui a bousculé nos théories sur la question. Et si finalement l'eau était présente sur la Terre depuis ses débuts? Ils ont étudié les propriétés des météorites qui se sont imbriquées et ont composé la planète que nous habitons. Un type de météorite, les chondrites à enstatite, leur ont permis de remonter le temps jusqu'à la naissance de la Terre.
Ces chondrites à enstatite, elles ont une particularité vraiment importante. C'est que du point de vue de leur composition chimique fine, ces météorites, elles ressemblent aux roches terrestres. Et c'est celles qui ressemblent le plus aux roches terrestres que l'on connaisse.
Et c'est une vidéo du CNRS en 2020. Marion Garçon, vous qui êtes géochimiste, on retrace avec vous l'histoire de la Terre primitive, les tout premiers instants qui nous emmènent maintenant donc à l'apparition des océans, la formation des premiers continents. Vous nous l'expliquiez juste avant la pause, il y a 200 millions d'années juste après la formation de la Terre, il y a eu ce corps qui a provoqué ce cataclysme gigantesque, qui est venu pulvériser notre planète, qui a permis la formation de la Lune. Est-ce que c'est à la suite de cet événement que sont nés les océans et les continents, ou est-ce que ça a demandé quand même un peu de temps, cette histoire ?
Non, c'est probablement très rapidement après. En tout cas, les évidences qu'on a indirectes, par exemple les compositions isotopiques de zircon qui nous montrent que les magmas à partir desquels ces minéraux se sont formés avaient interagi avec de l'eau, liquide, probablement à la surface de la Terre. Ça nous dit que potentiellement les océans étaient là dès 4,3 milliards d'années. Donc on est vraiment dans le même timing temporel, juste après l'impact qui a formé la Lune.
Et alors ces chercheurs du CNRS, là, qu'est-ce qu'ils nous racontent au fond de l'apport de l'eau? Parce que c'est un sujet très débattu dans la communauté scientifique, savoir si l'eau effectivement était déjà présente dans la Terre, ou s'il y a eu apport extérieur via quoi, des météorites par exemple?
Oui, donc il y a deux grands scénarios, deux possibilités pour l'apport de l'eau, comment l'eau est arrivée sur Terre.
Oui.
Donc soit elle était déjà présente dans les blocs primordiaux qui se sont accrétés pour former notre planète, soit elle a été apportée plus tardivement par un bombardement donc, de comètes ou d'astéroïdes hydratés, on pourrait dire. Et donc cette étude là qui est parue en 2020 montre qu'en fait il y a des teneurs en eau qui sont assez importants dans les blocs primordiaux qui constituaient notre planète, et qu'en plus la composition isotopique, la signature de cette eau est compatible avec celle qu'on a sur Terre dans le manteau et puis dans les océans. Donc en gros la conclusion de ces études, c'est que on aurait à peu près 95% de l'eau qui était déjà présente initialement dans les blocs primordiaux,
et donc puis peut-être à l'intérieur de la Terre.
Oui, à l'intérieur de la Terre.
Ouais.
Et ensuite probablement après l'impact qu'a formé la Lune, tout a recondensé et donc on avait des océans liquides. Après, il est possible qu'on ait eu des océans liquides avant cet impact, mais en tout cas, ça va être très difficile d'en avoir la trace.
Mais ça voudrait dire quoi? Que l'eau est remontée à la surface suite justement au cataclysme?
Oui.
Ouais. C'est qu'il y avait suffisamment d'eau pour former les océans actuellement présents sur Terre, ça paraît incroyable.
Si je me souviens bien, dans cette étude, il montre que dans les chondrites à enstatite, là qu'on vient d'entendre, donc qui sont potentiellement les éléments majeurs, les blocs qui ont constitué notre planète, on a l'équivalent, quand on les met tous ensemble et qu'on forme la masse de notre planète, au moins l'équivalent de trois fois la quantité des océans qu'on a sur Terre.
Ah oui, il y en avait encore plus alors.
Donc il y en a encore plus, donc soit on l'a perdue, soit elle est probablement d'ailleurs dans le manteau.
C'est
une certaine partie, donc il y a une masse d'océans qui sont nos océans à la surface, mais on a aussi de l'eau dans le manteau.
C'est ça, mais c'est difficile de le prouver.
Difficile de prouver qu'il y a de l'eau dans le manteau.
Oui, la quantité en tout cas.
Ah, la quantité initiale, oui, ça c'est très.
Et même aujourd'hui,
aujourd'hui, on ne sait pas combien exactement d'eau il y a dans le manteau. Il y en a, c'est sûr, une quantité sûrement importante. Mais...
Ouais. Pourquoi on a autant de mal d'ailleurs à aller au centre de la Terre? Tiens, pour reprendre Jules Verne, pourquoi c'est si compliqué? Parce qu'on a du mal, les plus grands forages d'ailleurs, c'est quoi? C'est combien de kilomètres?
Eh bien, c'est une douzaine de kilomètres.
C'est ridicule.
Donc, c'est vraiment pas beaucoup par rapport au rayon de la Terre qui fait 6400.
Ouais. Donc on n'a jamais été capable de forer au-delà de 15 km?
12-15 km peut-être. j'ai en tête 12. Et
pourquoi? Pourquoi c'est difficile?
C'est un problème technique. Au bout d'un moment, la pression est trop forte.
C'est ça.
Donc, on n'arrive pas... c'est un problème de technologie.
Ouais.
Je ne pense pas qu'on arrivera beaucoup plus loin. Donc, il faut trouver d'autres manières d'échantillonner. Après, les processus géologiques nous permettent de ramener des roches qu'on estime être à des profondeurs importantes à la surface. Donc, nous, c'est ça qu'on étudie. Des morceaux de manteaux, par exemple, qui sont remontés à la surface. Et on peut les étudier pour...
Donc c'est-à-dire que notre Terre, puisqu'on parlait de ce scénario avec cette couverture magmatique à la surface, tout d'un coup on est passé donc d'une boule hyper chaude à un refroidissement qui a permis à l'eau liquide de former les océans.
Oui, c'est ça.
Donc, en fait, on peut imaginer la baisse de température, d'ailleurs, qu'il y a eu.
Oui, il y a des modélisations numériques qui sont faites pour savoir à quelle vitesse la température est diminuée. En fait, c'est assez rapide. L'océan magmatique cristallise très vite, toujours à l'échelle géologique, quelques millions d'années.
Ouais.
De nouveau, quelques minutes sur l'échelle de 24 heures. Et ensuite, on a des températures de surface qui sont très vite inférieures à 100 degrés. Donc, on peut maintenir évidemment, pour maintenir de l'eau liquide, il faut être entre 0
c'est
et 100
ça.
Degrés.
Ouais, ouais.
Donc, on arrive très vite à cet état où on aurait eu de l'eau liquide sur Terre.
C'est ça. Donc ça a été quand même très rapide tout ça. Hein.
Oui,
ça a été
c'est des phénomènes majeurs mais assez rapides.
C'est ça, majeur, incroyable et très rapide. Ça surprend d'ailleurs, c'est un peu contre-intuitif pratiquement pour la scientifique que vous êtes ou pas?
Il faut du temps pour se mettre en place. Après, voilà, faut quand même garder à l'idée que c'est plusieurs millions d'années, donc c'est instantané peut-être à l'échelle géologique, mais ça laisse quand même le temps aux choses de se faire.
Ouais. Et alors, la formation des continents, Marion Garçon, est-ce que c'est vraiment concomitant à celle des océans? Est-ce que ce sont deux histoires très différentes, ou est-ce qu'il y a un lien entre les océans et les continents?
Alors, le lien, il n'est pas évident à faire. Je pense que le volume et la quantité de masse continentale qui est générée au cours du temps, ça, c'est quelque chose qui est très controversé. Il existe beaucoup de théories. Voilà, y a une partie de la communauté scientifique qui pense que les continents se sont formés très très tôt dans l'histoire de la Terre et en grosse quantité, c'est-à-dire à peu près ce qu'on a aujourd'hui dès 4 milliards d'années, par exemple.
Ouais.
Et puis,
parce que c'est une particularité de la planète Terre, quand même,
oui,
ça.
Oui, c'est une particularité de la planète Terre, même si sur Mars, on pourrait avoir peut-être identifié de la croûte aussi qui ressemble à cette croûte continentale, il n'y a pas très longtemps. Mais oui, c'est une spécificité de notre planète qui a probablement aidé aussi à ce que la vie se développe, puisqu'on a fait émerger des terres avec des compositions qui étaient différentes du plancher océanique, et donc lorsqu'elles s'érodent, elles amènent des nutriments dans l'océan qui sont différents et qui permettent à la vie peut-être un peu plus complexe de se développer.
Donc c'est la différence, c'est la composition entre la croûte océanique et ce qui va donner la croûte continentale.
Oui.
C'est la composition intrinsèque de tout ça.
La différence entre la différence entre la croûte océanique et la croûte continentale, c'est évidemment une différence chimique, mais qui est aussi reliée à son processus, au mécanisme de formation de chacune de ces deux croûtes. Donc la croûte océanique va se former dans le fond des océans, au niveau des rides médio-océaniques, donc c'est les sutures de plaques tectoniques. Et puis la croûte continentale, on pense qu'elle se forme plutôt, en tout cas aujourd'hui, dans les zones de subduction. C'est quand une plaque tectonique plonge sous une autre plaque. Voilà, ça fait des conditions, ça hydrate le coin du manteau qui permet qui fond en fait, et qui produit des magmas qui ont une composition qui ressemble à la croûte continentale.
Et le premier vrai continent sur Terre, alors est-ce qu'on peut le dater? Est-ce qu'on peut imaginer à quelle période c'était et à quoi il ressemblait aussi ce premier continent? Parce que ça a tellement bougé aussi.
Oui. Alors, c'est un peu difficile de dire le premier grand continent, mais disons qu'on sait qu'il y avait quelque chose qui probablement ressemblait à de la croûte continentale très très tôt, puisqu'on a ces zircons qui viennent d'Australie, les zircons de Jack Hills, qui sont des minéraux qu'on retrouve principalement dans des roches de la croûte continentale et qui ont été datés entre 4 et 4,3 milliards d'années. Donc très très tôt, on sait qu'il y en avait. Par contre, ce qu'on ne sait pas du tout, c'est est-ce que c'était quelques kilomètres carrés ou des grandes surfaces étendues, émergées, non émergées. Ça, on n'a pas du tout de
point de repère.
Voilà. Ensuite, par rapport à les roches qui existent actuellement sur les continents, on peut dire, a priori, qu'il y avait au moins la moitié de la masse des continents qu'on a aujourd'hui qui existait à 2,5 milliards d'années, donc à la fin de l'Archéen.
Et alors, nos continents terrestres, ils se sont formés uniquement par des mécanismes internes, ou là encore, il y a pu avoir apport extérieur venant peut-être d'autres planètes ou de corps célestes hein.
Alors globalement, ça c'est, ils sont formés par des mécanismes qui nécessitent la tectonique des plaques, donc subduction, collision, voilà. Après, il y a des théories qui, il y a des études qui ont suggéré que la croûte continentale très très tôt était formée lors d'impacts. Donc par exemple des météorites quand il y avait le bombardement tardif, par exemple avec une pluie de météorites, donc vers 3,9 milliards d'années. À ce moment-là, on aurait pu avoir avec l'énergie des impacts, suffisamment d'énergie pour faire fondre les roches à la surface et créer des roches qui auraient une composition chimique proche de la croûte continentale. Mmh.
Et quelles sont les pièces à conviction là-dessus, alors, pour pouvoir établir ce scénario, cette hypothèse ?
C'est toujours des compositions isotopiques de zircon, mais qui peuvent être interprétées de différentes manières. C'est pour ça que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette interprétation. Et surtout, c'est toujours un peu flou sur à quel point ces processus peuvent être importants. Est-ce que c'est possible que ce soit la raison pour laquelle certaines parties de la croûte soient devenues felsiques, mais est-ce que c'est un mécanisme majeur ou juste
anecdotique
par rapport à le mécanisme principal?
C'est quoi? C'est des petites billes de verre, c'est ça, les indices en fait qu'on a?
Non, ce sont des minéraux qui sont retrouvés dans les roches actuelles et qui se sont formés il y a entre 4 et 4,3 milliards d'années.
Parce qu'on parle de sphérules d'impact, c'est ça, sur l'hypothèse justement de corps venant de l'extérieur. C'est pour ça que je parle de ces petites billes de verre.
Oui, alors les sphérules d'impact, c'est ça, c'est des petites billes de melt qui sont formées lorsqu'on a un impact avec les roches de la croûte terrestre.
Donc, la question de l'origine de la formation des continents n'est toujours pas tranchée non plus?
Pour moi, non.
Et vous n'êtes pas la seule, apparemment.
Non, je ne pense pas. Ouais.
Marion Garçon, on va voir avec vous dans quelques instants comment la vie s'est mise à se développer dans ce contexte particulier de l'histoire primitive, avec là aussi un grand événement, celui de l'oxygénation. Vous nous expliquez tout ça dans un instant, et puis vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur franceinter.fr.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Il y a environ 3 milliards d'années, les cyanobactéries se dotent d'une incroyable capacité qui leur permet de générer de l'énergie. La photosynthèse. Ce processus rejette un gaz très réactif, l'oxygène. L'oxygène inonde l'atmosphère. Cet afflux massif d'oxygène dans l'air porte un nom. C'est la grande oxygénation.
C'est l'une des périodes les plus importantes de l'histoire de la Terre.
L'oxygène s'accumule dans l'atmosphère comme jamais auparavant. Il a suffi d'un gaz pour tout bouleverser.
Extrait d'un documentaire de la BBC sur les cinq vies de la Terre. Marion Garçon, vous qui êtes géochimiste, spécialiste de l'histoire de la Terre primitive, vous êtes avec nous cet après-midi pour évoquer aussi cet événement majeur de l'histoire de notre Terre. On peut encore parler de Terre primitive d'ailleurs, là, à 2 milliards d'années?
Alors, c'est peut-être ce qui peut définir la limite, en fait. Ouais. Là, on est, 2,45 milliards d'années.
Ouais.
Voilà, c'est à peu près la moitié de l'histoire de la Terre.
Eh oui.
11h du matin sur notre échelle de 24 heures, donc on va dire que peut-être que ça signe un peu la fin de cette période primitive pour notre planète.
Donc l'oxygène arrive à 11h du matin ?
Alors l'oxygène arrive à 11h du matin, alors il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. En fait, le grand événement d'oxygénation, c'est le moment de l'histoire de la Terre à partir duquel l'oxygène commence à s'accumuler de manière pérenne dans notre atmosphère et qu'on est capable de le détecter avec les outils géochimiques qu'on utilise aujourd'hui.
Ouais.
Donc typiquement, par exemple, les fractionnements indépendants de la masse du soufre qu'on mesure dans les sédiments. Là, on voit qu'il y a un grand changement il y a 2,45 milliards d'années. Et en fait, c'est un moment où on pense qu'on passe d'une quantité avant le grand événement d'oxygénation qui serait d'environ 1 million de fois moins d'oxygène qu'on a aujourd'hui.
Donc on avait déjà
1 million de fois moins, donc on va dire quasiment pas.
Mm-hmm.
On dit que c'est anoxique en fait.
Ouais.
Juste après ce grand événement d'oxygénation, on passe à quelque chose qui est à 1000 fois moins que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire par exemple 0,02%. Aujourd'hui, on a 20% d'oxygène dans l'atmosphère. Bon, là, ça voudrait dire qu'on passe de quasiment rien à 0,02% juste après le grand événement d'oxygénation. Donc, tout est quand même relatif.
Ouais.
C'est un grand événement d'oxygénation, mais on n'a pas des quantités non plus mirobolantes volante d'oxygène juste après.
Mais ça change tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été à l'origine? Parce que là, dans le documentaire, on évoquait les bactéries. C'est elles qui seraient à l'origine de l'oxygénation terrestre?
Oui, c'est la théorie, on va dire, qui est la plus acceptée dans la communauté. Donc c'est une origine biologique.
Ouais.
Donc ça voudrait dire qu'à ce moment de l'histoire de notre planète, les bactéries ont acquis cette innovation majeure qui est la photosynthèse. Donc c'est un mécanisme biologique qui permet de transformer le CO2, le dioxyde de carbone, en oxygène.
Mmh.
Et elles auraient été suffisamment nombreuses, en tout cas elles auraient eu les conditions idéales pour se développer, pour qu'elles produisent suffisamment d'oxygène à cette période pour que l'oxygène puisse s'accumuler dans l'atmosphère.
Mais ces bactéries, elles étaient dans les océans, justement?
Oui, c'est des micro-organismes qui vivent dans les océans. Probablement, elles étaient là avant.
Ouais.
Voilà, par exemple, on a entendu là que la photosynthèse était là 3 milliards d'années, peut-être même à 3,5 milliards d'années,
ouais,
puisqu'on observe, par exemple, des fossiles, donc des stromatolites. Donc les stromatolites, ce sont des constructions fossiles qui sont aujourd'hui constituées de carbonate, mais qui sont, en fait, des constructions qui ont été faites par des colonies de cyanobactéries qui faisaient la photosynthèse. Ça, on pense qu'on en voit dans les roches à 3,5 milliards d'années. Donc potentiellement, ces bactéries existaient déjà, formaient de l'oxygène, mais elles étaient peut-être pas suffisamment nombreuses.
Ouais.
Ou alors, il y avait des mécanismes qui directement consommaient l'oxygène qu'elles produisaient, donc on n'arrivait pas à l'accumuler dans l'atmosphère. Donc, au moment du grand événement d'oxygénation, c'est sûr, il s'est passé quelque chose, puisque à partir de ce moment-là, on a réussi à accumuler suffisamment d'oxygène dans l'atmosphère pour pouvoir être capable de le détecter, nous, avec nos outils.
Et cette augmentation-là de l'oxygène, c'est un scénario, là aussi, qui est assez bien ficelé, assez clair pour les scientifiques, où il y a encore pas mal de zones d'ombre?
Donc, il y a cette hypothèse biologique,
ouais,
voilà, l'arrivée de la photosynthèse, mais il y a aussi, il y a certains chercheurs qui proposent que c'est une origine géologique,
ouais,
donc qui serait plutôt associée à un grand dégazage du manteau.
Donc, pas les bactéries, mais du coup, quelque chose qui viendrait des roches.
Voilà, quelque chose qui viendrait de la dynamique de notre planète. Donc, par exemple, associé au démarrage de la tectonique des plaques,
ouais,
ou peut-être relié à l'émergence importante des continents à ce moment-là. En tout cas, un changement majeur du dynamisme de notre planète qui aurait permis le dégazage du manteau et donc, en gros, le relargage d'oxygène qui aurait pu s'accumuler dans l'atmosphère à partir de 2,45 milliards d'années.
Et vous, quelle est l'hypothèse que vous préférez dans les deux, là?
Voilà, je ne vais pas me fâcher avec mon collègue qui travaille dans le même laboratoire que moi.
Ah, c'est vrai?
Non, mais en fait, je ne pense pas que j'ai les billes dans ma recherche pour pouvoir trancher entre les deux. Il est aussi très probable que ce soit une combinaison des deux.
Ah, voilà, c'est ça.
Donc,
tout le monde est
comme
content.
Ça, tout le monde est d'accord.
Mais oui, donc, biologique ou géologique?
Oui, biologique ou géologique, ou peut-être une combinaison des deux qui, ouais, fait qu'à ce moment-là, on arrive à ces conditions qui nous permettent d'avoir ce changement majeur, ouais, dans la composition de l'atmosphère.
Qu'est-ce que ça entraîne, en tout cas, cette grande oxygénation de notre planète? Parce que là, c'est aussi un énorme bouleversement, quand même. Hein.
Oui, c'est un grand bouleversement, surtout en ce qui concerne les environnements de surface.
Ouais.
Donc, évidemment, la présence d'oxygène, ça a probablement beaucoup aidé à développer la vie sur Terre.
Mmh.
En tout cas, ce qu'on voit, c'est que donc, les quantités d'oxygène dans l'atmosphère, elles ont augmenté par paliers. Donc, il y a le grand événement d'oxygénation, et puis ensuite d'autres paliers beaucoup plus tard.
Ouais.
Et on voit qu'à chaque fois qu'on a des sauts dans l'augmentation de la quantité d'oxygène, on a aussi un développement important de la complexification des formes de vie, de plus en plus grosses, voilà, jusqu'à
nous. Voilà. Mais c'est une autre histoire. Hein. Et nous en parlerons une autre fois, parce que nous avons toujours sur le thème de cette Terre primitive des questions pour vous, Marion Garçon. Allez, on va commencer par une note vocale sur l'application Radio France avec Stéphane qui vous envoie ce petit message.
Bonjour, je suis Stéphane, j'habite Chambéry. Merci pour cette émission qui est vraiment très intéressante. J'aurais une question sur l'apparition de l'eau sur Terre. Pourquoi ne serait-ce pas dû à un phénomène de condensation qu'on aurait pu avoir entre le noyau de la Terre et l'atmosphère, par exemple? Merci beaucoup.
Marion Garçon, l'hypothèse de la condensation?
Alors ça, c'est pas très facile à répondre. Alors, je sais pas trop qu'est-ce qu'on entend par condensation du noyau. En fait, ce qui s'est surtout passé, c'est que tout s'est recondensé après l'impact Terre-Lune. Donc, le noyau, la formation du noyau...
C'était fait,
c'était
déjà.
Fait, voilà. Ouais. Après, la grosse partie était faite. Et donc, les éléments, ils étaient déjà réorganisés à ce moment-là. Donc là, tout a recondensé à la surface. Et donc, a priori, c'est plutôt de cette manière-là que l'eau est arrivée sur Terre.
Céline trouve ça tellement poétique et passionnant de vous écouter, Marion Garçon. Elle demande, est-ce que vous pensez qu'il existe des théories très différentes de celles dont vous nous parlez aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a vraiment des choses très exotiques qui sont proposées sur la Terre primitive ?
Il y a toujours des choses très exotiques. Alors, ça peut paraître plus ou moins très exotique. Ça dépend, mais par exemple, cette formation de croûte continentale par impact, c'est un peu exotique parce qu'en fait, on a plutôt, dans notre communauté, on utilise c'est des mécanismes géologiques qui sont invoqués, liés au dynamisme de notre planète. Et là, par exemple, cette étude qui est parue il y a deux ans, proposait quelque chose complètement différent, en fait, que nos continents se seraient formés par des impacts, avec des météorites, qui est vraiment... Ça, par exemple, pour moi, c'est très exotique.
Très bien. James demande, est-ce que Theia n'aurait pas apporté beaucoup d'eau sur Terre au moment de cette grande collision dont vous parliez tout à l'heure, à l'origine de la formation de la Lune aussi ?
Alors oui, en fait, c'est possible que ça fait partie de ce qu'on appelle les blocs primordiaux, puisqu'en fait, ces deux planètes, leur composition, leurs éléments chimiques se sont mélangés lorsqu'il y a eu l'impact. Donc probablement qu'une partie de l'eau qui forme nos océans provient de cette protoplanète Theia.
Allez, on va écouter Gilles, autre message vocal sur l'appli Radio France.
Bonjour, c'est Gilles de Briançon. Je voulais vous poser une question. J'avais lu il y a quelques temps que les terres les plus anciennes qu'on ait trouvées sur notre planète se trouvaient du côté de Kirkenes en Norvège. Est-ce que votre spécialiste peut nous répondre, s'il vous plaît ? Merci.
Alors, notre spécialiste, elle est là pour répondre, Marion.
Alors, pour moi, les roches les plus anciennes qui existent sur Terre, c'est celles qu'on a été échantillonnées il y a deux semaines dans le nord du Canada. Voilà, c'est un nom un peu compliqué, c'est Nouveau-Aquituc, la ceinture de roches de Nouveau-Aquituc. Et donc, ces roches sont datées à 4,3 milliards d'années. Ensuite, parmi les plus vieilles, on a toujours au Canada les roches d'Acasta, qui sont des roches d'affinité continentale, à 4 milliards d'années. Et puis ensuite, au Groenland, 3,8 milliards d'années.
Donc pas de Norvège là-dedans.
Non.
Johan demande, en France métropolitaine, les roches qui nous entourent ont quel âge ? Est-ce homogène ou trouve-t-on sur un milieu, les Pyrénées par exemple, des roches d'âge très différent ?
Alors, on peut trouver sur un même endroit des roches d'âge très différent. Il n'y a pas de roches très, très, très vieilles de plusieurs milliards d'années en France. Mm-hmm. Hein. Sur notre territoire, oui, un seul endroit, on peut trouver des roches qui ont plusieurs centaines de millions d'années avec des roches qui ont quelques milliers d'années. Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, pour cette histoire condensée, elle aussi, de la Terre primitive, Marion Garçon. Et bon retour dans votre laboratoire de Clermont-Ferrand, alors.
Merci.
Saluez vos collègues, ceux des autres hypothèses, alors. Merci infiniment.
Merci.